Les chansons. J'étais devant, je vous ai écouté, on a chanté beaucoup de choses, beaucoup de vérités. Et la pratique de cette vérité, c'est ce qu'il faut lutter pour avoir chaque jour de la semaine. C'est pas facile. Et nous avons chanté, ces mots sont sautés de la page pour moi ce matin. Je pense que c'était dans Quel repos céleste. Tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour, tu sauras déployer envers moi tes tendresses. C'est beau, n'est-ce pas? C'est la sagesse de Dieu et son amour ensemble qui nous rassure que nos vies sont pas sans signification, sans sens, que les choses arrivent, qui arrivent sont en fait la tendresse de notre Père pour nous. Et c'est ça qui doit nous garder jour après jour après jour. Nous continuons ce matin notre louange par l'écoute. On va dire à Dieu, enseigne-nous. Donc, on va ouvrir nos Bibles et on va essayer de voir ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Je vous invite à trouver la lettre aux Philippiens dans vos Bibles. C'est dans le Nouveau Testament. Et nous allons continuer notre série sur ce qui nous sommes en Jésus-Christ. Et ce matin, nous allons considérer le fait que nous sommes gardés en Christ. Gardés en Christ, c'est le thème. Et nous allons considérer ce thème en deux points. Le premier point, c'est qu'en Christ, nous sommes gardés pendant cette vie. Et le deuxième point, en Christ, nous sommes gardés à jamais. Demandons Dieu pour son aide pendant cette prédication. Père Céleste, nous avons la capacité d'étudier ta parole, mais nous pouvons rater vraiment ce que tu veux accomplir dans nos vies sans l'Esprit. C'est notre prière maintenant que tu agisses dans nos cœurs. S'il y a des péchés qui nous bloquent, nous prions que tu nous aides à confesser, de nous repentir de ces péchés. S'il y a des craintes, des distractions, des pressions de la vie, enlève ces choses afin que nous puissions être enseignés par ta parole. Et nous le prions dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Gardez l'or de cette vie. Nous vivons dans une ère pleine d'anxiété, n'est-ce pas? On est très anxieux aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passera au niveau de nos finances? Qu'est-ce qui se passera dans la famille? Qu'est-ce qui se passera dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui va se passer dans mes études? On a des étudiants. On a beaucoup de choses qui pèsent sur nos épaules et beaucoup d'anxiété qui viennent avec ces circonstances. C'est pourquoi nous avons, malheureusement, dans le monde, beaucoup qui se tuent, mais aussi beaucoup qui sont dépendants des choses externes pour aider avec l'anxiété. On pense peut-être aux médicaments, mais ce n'est pas que le médicament. Beaucoup sont dépendants de l'alcool pour essayer de vivre avec l'anxiété. Beaucoup sont dépendants de la nourriture. Beaucoup se tournent envers les jeux, soit les sports, soit les jeux de vidéo, soit d'autres choses. D'autres se tournent envers le divertissement, les livres, les vidéos, les films, les séries. On trouve beaucoup de choses en essayant de nous aider avec l'anxiété. Mais la seule personne qui peut nous aider avec l'anxiété, c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est ce que dit le passage ce matin, Philippiens 4, chapitre 4, les versets 6 et 7. Paul écrit à ces personnes-là et à nous aujourd'hui, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. La paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ce sont les paroles de Dieu pour nous ce matin qui peut nous aider à vivre pour lui. On va juste considérer plusieurs choses par rapport à ce verset, ces deux versets. D'abord, considérons la nature absolue de cet impératif. Il dit « croire ». Il dit « ne vous inquiétez de rien ». C'est assez total. Alors, on ne peut pas dire « oui ». Il y a des choses qui ne sont pas très graves dans la vie. Il ne faut pas absolument être anxieux par rapport à des choses qui ne comptent pas. Bon, on peut dire les choses qui sont banales. Mais il y a des choses qui sont quand même très, très, très importantes. Et là, l'anxiété, c'est OK. Ça, c'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas très inquiet par rapport à les choses qui ne comptent pas, hein? Mais ma santé, je m'inquiète. Mes études, ça c'est important parce que sans mes études, qu'est-ce que je peux faire dans l'avenir? Ma famille, hein, ça c'est très important. Établi par Dieu et on a des problèmes dans la famille, je dois être plein d'anxiété. Qu'est-ce que je peux faire? C'est important. Non, la Bible nous dit... rien. Rien. Et je vous pose la question. Combien de fois cette semaine étions-nous remplis d'anxiété? Moi, j'ai eu un appel hier, peut-être un message. C'était un message. La chaudière ne marche plus. D'accord? J'étais dans la voiture et j'ai dit... Père, tu sais que je ne sais rien par rapport à l'électricité, les chaudières. Qu'est-ce que je peux faire? J'étais rempli d'anxiété. Qu'est-ce que je peux faire? Et tout de suite, j'ai dû dire, pardonne-moi, Père. Tu es là, tu vas diriger les choses. Et ça, ce n'est pas très grave, sauf si on habite ici, on n'a pas l'eau chaude. Hein? C'est un peu plus important. Voilà. Mais d'autres choses arrivent dans la vie et tout d'un coup, la tentation, c'est l'anxiété. Et on peut dire, c'est quoi exactement l'anxiété, d'accord? Et j'ai lu un homme qui a dit, on peut considérer que l'anxiété, c'est un peu comme les pensées qui courent tout le temps, qui cherchent tout le temps une solution, n'est-ce pas? Quand on est assis, ça tourne. Quand on est au lit, les pensées tournent. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Quand on prie, ils tournent, ils tournent, ils tournent. Quand on est assis à table avec la famille, ils tournent. Ouais, c'est difficile, l'anxiété. Mais on doit reconnaître et on doit accepter que la Bible dit... rien. Pas du tout. c'est un homme assez haut pour nous. D'accord? Ça, c'est la première chose à noter. La deuxième chose à noter, c'est que la Bible et Dieu, Dieu sait que nos besoins nous posent des tentations. D'accord? Dieu n'est pas très loin comme les personnes qui sont vraiment, vraiment, vraiment riches dans le monde. Et il ne comprend pas la vie de la personne normale. D'accord? Quand il veut acheter quelque chose, il achète, il ne pense jamais. Même quand il veut acheter quelque chose qui coûte $1 million. Pour eux, ce n'est pas un problème. D'accord? J'ai écouté une prédication aujourd'hui, cette semaine, qui a parlé d'un site où les ultra-riches peuvent acheter des choses que nous dirons qui sont assez banales. Hein. Ils peuvent acheter un téléphone portable pour $1,300,000. Wow, c'est quel téléphone, hein? On peut téléphoner à Mars, je pense. Mais bon, pourquoi? Parce qu'ils ont l'argent, il faut dépenser l'argent sur quelque chose, et voilà. Nous ne pensons pas comme ça. Nous pensons, est-ce que j'ai l'argent d'acheter des choses qu'il faut? Mais quand même, nous avons le privilège de vivre dans une société où, en fait, nous avons beaucoup de choses qui ne sont vraiment pas nécessaires. Mais on a des besoins. On a des besoins dans la famille, n'est-ce pas? Des problèmes arrivent et ils sont des vrais problèmes. Et peut-être on est des parents et on ne peut pas voir comment on va résoudre le problème. Peut-être on est des enfants. Et les enfants, vous voyez bien dans la famille que vos parents sont des pécheurs, qu'il y a des problèmes et ça pèse. Peut-être c'est dans l'école. C'est trop. La pression, c'est trop. Je ne peux plus faire. C'est la même chose au bureau, hein, au travail, dans l'église. Et tous nos besoins sont là et Dieu le sait. Dieu le sait et il dit, moi, je reconnais que vos besoins sont l'occasion d'avoir l'anxiété. D'accord? Il ne faut pas nier les besoins, mais qu'est-ce qu'il faut faire avec la tentation? Et donc, on a deux choix, d'accord? On a le choix d'accepter, de poursuivre l'anxiété, et l'autre choix, c'est de ne pas choisir, ce n'est pas de choisir la paix, d'accord? Souvent, dans ma tête, au moins, jusqu'à cette semaine, c'était clair, on choisit d'être dans l'anxiété ou on choisit d'être dans la paix, parce qu'ils sont les deux choses qui sont le contraire. Mais regardez à nouveau à vos Bibles et les deux choix qui sont devant nous, c'est l'anxiété ou la communication avec Dieu. D'accord? On ne doit pas choisir d'avoir la paix. D'accord? On a devant nous une situation très très difficile. D'accord? Ça arrive. Et maintenant, la tentation est là. Michael, tu dois répondre. Tu dois choisir soit d'être plein d'anxiété, inquiétude, peur, la crainte, ou tu dois choisir d'être rempli de paix. Non. Michael, selon ce passage, tu dois choisir de communiquer avec ton Dieu. Est-ce que vous voyez comment ça c'est différent? D'être plein d'inquiétude, ça c'est assez naturel, n'est-ce pas? Bon, pour moi, ça arrive comme ça. Je ne dois pas réfléchir. Tout d'un coup, c'est la crainte qui arrive, l'inquiétude. Mais je dois choisir quelque chose. Mais si la pression est sur mes épaules pour choisir d'être rempli de paix, Cela veut dire que moi, je dois produire quelque chose. La paix. Et je vous confesse, moi, je n'ai pas la capacité de produire la paix dans mon cœur. Heureusement, ça, ce n'est pas l'exigence de ce passage. Le passage dit, soit on choisit d'être rempli d'anxiété, ou on choisit de communiquer avec notre Dieu. Quel privilège, hein? Dieu ne dit pas à vous, à choisissez la paix. Il dit, parlez à moi. Parlez à moi. Venez me parler. Et bien sûr, parfois, la prière n'est pas facile. Je ne dis pas que tout le temps, je me lève à 4 heures le matin en disant, « Ouh, je vais prier. » Je ne dis pas non plus que quand je reçois de la nouvelle qui n'est pas ce que je voulais, que la première réponse, c'est « Ah, la prière. » C'est pourquoi c'est une lutte de la foi. On doit lutter pour parler à notre Dieu. Parce que si nous choisissons de ne pas parler à Dieu, c'est un choix plein d'inquiétude. Parce que nous n'allons pas trouver la paix dans nos propres pensées. Et dans ce passage, nous voyons aussi qu'il y a une solution à l'anxiété. Et c'est la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu. Si on ne veut pas être rempli d'inquiétude, on doit être rempli de la paix de Dieu. Mais comment ça s'arrive? On va juste considérer assez rapidement la paix de Dieu. La paix de Dieu est une paix divine. D'accord? Peut-être ça c'est un peu trop basique, mais il faut reconnaître quand il dit paix de Dieu, cela veut dire que la paix vient de qui? De Dieu. Cela veut dire quoi? Que c'est Dieu qui est la source de cette paix. C'est Dieu qui donne cette paix. D'accord? Et je vous invite à regarder avec moi Jean 14. Peut-être vous savez déjà ce que ce passage dit. Mais en Jean 14, Jésus parle à ses disciples. Jean 13, il a lavé leurs pieds. Il a expliqué que Judas, il va le trahir. Il a commencé à expliquer, il va partir. Jean chapitre 14. Et tout d'un coup, les disciples sont remplis d'inquiétude, de l'anxiété, parce que le maître va nous quitter. Et Jésus, le verset 27, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, d'accord, que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. » Nous voyons très clairement qu'il y a une paix qui est la paix qui est comme celle qui est donnée par le monde et celle qui est donnée par Dieu. Ce qui est naturel pour nous, c'est de chercher ce qui est comme la paix du monde. Et comment le monde traite la pression, les choses qui causent l'anxiété. Bon. Soit on essaie de les oublier, ça c'est pourquoi on utilise les drogues, on abuse l'alcool, on regarde les films, on fait les jeux de vidéo pour ne pas penser à ce qui est là. Mais parfois on essaie d'éviter d'avoir la paix en disant, bon, si c'est cette personne ou c'est cette situation qui me cause de l'anxiété, je vais laisser tomber ces choses. D'accord? C'est pourquoi beaucoup de personnes quittent leur famille. Un mari, la famille c'est trop. Sa femme, ses enfants, ils causent trop de pression, trop d'anxiété. Je me quitte. D'accord? je m'en vais, c'est fini. On regarde le travail, on change le travail. Bon, on ne peut pas avoir la paix comme ça. Il faut chercher la paix qui est divine. Ensuite, c'est une paix active. Parce que dans ce passage, il dit que c'est la paix de Dieu qui gardera. Philippiens chapitre 4 et le verset 6. C'est une paix active. Et vous pouvez regarder avec moi en 2 Corinthiens 11. J'ai trouvé ça très, très intéressant. J'ai cherché pour ce verbe, juste pour voir est-ce qu'il est utilisé dans un autre passage. Et en 2 Corinthiens 11, nous lisons ces paroles. C'est Paul qui parle de juste après qu'il a été sauvé. Il dit, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damasciennes pour se saisir de moi. Le mot garder, c'est le même mot. D'accord? Imaginez, d'accord? Imaginez. Paul, il se trouve dans une ville plein des ennemis. Et ils ont dit, il ne va pas sortir de notre ville. À cette époque-là, les villes sont entourées par les murs, avec les portes. Et donc, à chaque porte, à chaque point d'entrée, de sortir, il y avait des soldats, des policiers. Et regardez, quand on voit Paul, on va l'arrêter, on va l'apprendre. Ça, c'est l'idée derrière ce mot. On peut imaginer maintenant que on a notre cœur, nos pensées qui sont dans une ville entourée par les murs, avec les portes. Et nous, quand nous prions à Dieu, il dit que sa paix est le soldat. Ce sont les soldats qui se trouvent à chaque porte et qui nous gardent de l'anxiété. C'est active, cette paix. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut avoir en étant inactive, en cherchant par la méditation d'arriver à vider toutes nos pensées. Non, c'est en fait la paix qui agit pour nous, grâce au Seigneur. C'est une paix qui est profonde. Il dit que la paix va garder vos cœurs et vos pensées. Ça, c'est l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Et vous savez tous ce qui est l'inquiétude qui trouble nos âmes, d'accord? Nos pensées, nos cœurs. On ne peut pas manger, en fait, on se sent mal, ventre. C'est les jours qui sont horribles. Parce que c'est très, très, très profond de l'anxiété. Mais ce que Dieu dit, c'est que sa paix nous garde et nous garde profondément. Ce n'est pas une paix superficielle que Dieu nous promet. C'est une paix profonde. Et c'est une paix extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'il dit quelque chose que vous connaissez très, très, très bien, j'imagine, mais en Philippiens, il dit qu'il nous donne une paix qui gardera nos cœurs et nos pensées, mais il donne un peu plus d'informations en disant c'est une paix, le verset 7, qui surpasse toute intelligence. Cela veut dire quoi? Bon, beaucoup pensent que ça, c'est une paix qui dépasse notre raisonnement. Je vous ai parlé des pensées qui tournent, parce qu'on cherche d'avoir les solutions. Et très souvent, on trouve des solutions et après, on a de la paix. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Je vais prendre un peu de l'argent d'ici, je vais faire quelque chose ici, je ne vais pas dépenser l'argent ici, et voilà, j'ai de l'argent pour payer ce qu'il faut. Ah, la paix. J'ai trouvé une solution. Et ils disent, mais il y a des problèmes qu'on ne peut pas trouver des solutions pour ces problèmes. Et malgré tout, malgré le fait que notre raisonnement n'arrive pas à trouver une solution, le raisonnement de Dieu trouve une solution et cela nous donne la paix. D'accord? Ou on peut dire que c'est une paix qui dépasse notre compréhension. Je pense que les deux vont ensemble. On arrive d'avoir la paix même si on ne sait pas pourquoi. Ça arrive, n'est-ce pas? On prie, on cherche des solutions, on ne trouve pas des solutions. La paix, elle est là. Et on dit, moi, je ne comprends pas. En fait, ça c'est le témoignage d'Ulysses et Angélique. Ils m'ont demandé de vous dire bonjour. Ils sont trop fatigués pour venir ce matin. Mais il m'a dit, les problèmes sont tous là. On n'a rien résolu, mais on a la paix. On ne comprend pas, mais on a la paix. Et c'est ce que nous avons en Jésus-Christ. Et ça, c'est la dernière chose à noter par rapport à ce passage. Il n'y a qu'une seule sphère de la paix de Dieu. Si vous regardez à nouveau le passage, il dit, la paix de Dieu, le verset 7, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Et il aura pu terminer à ce stade-là. C'est la paix de Dieu qui va vous garder. Donc, résistez à l'anxiété, d'accord? Il faut prier Dieu, et Dieu va envoyer sa paix qui va garder vos cœurs et vos pensées. Et c'est vrai, mais il ajoute ces trois mots qui sont très importants. En Jésus-Christ. Cela veut dire que nous ne pouvons pas avoir la paix de Dieu sans avoir Jésus-Christ. On ne peut pas trouver la paix de Dieu dans une autre sphère. Par exemple, la loi de Dieu. Un autre groupe de personnes. La paix de Dieu est liée à Jésus-Christ. Et on va juste considérer la paix qui est en Jésus-Christ. Et d'abord, quand on parle de la paix qui est en Jésus-Christ, on doit parler de la paix objective qu'il a obtenue pour nous. Par exemple, en Éphésiens, c'est la lettre juste avant, Éphésiens chapitre 2. Et on va lire juste deux versets. Les 13, 14, Paul écrit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et après, le prochain mot, c'est quoi? Car, c'est un lien logique. Il va expliquer quelque chose. Pourquoi Jésus-Christ? Car il est notre paix. C'est lui qui est notre paix. Si la paix existe entre vous et Dieu, d'accord? Si vous êtes venu ce matin et vous avez le droit de dire entre moi et Dieu, tout va bien. D'accord? J'ai la paix avec Dieu, il est à paix avec moi. Vous pouvez le dire parce que Jésus-Christ est votre paix. C'est lui qui a pris le jugement de Dieu, mérité par vos péchés, par mes péchés. Et maintenant, ce qui est entre nous et Dieu, ce n'est plus nos péchés, c'est Jésus-Christ qui est pour nous la paix. Ça, c'est ce que nous avons en Jésus-Christ. Et ça change tout. Parce que maintenant, nous pouvons dire que nous avons un Père et son amour est infini. Il nous aime. Quand il nous regarde comme son Fils Jésus. Et quand il n'agit pas comme nous sommes ses ennemis, les rebelles, il agit comme nous sommes son Fils Jésus-Christ. Et tout ce qu'il envoie dans nos vies sont les choses qui sont bonnes et qui sont utiles pour nous. Ça, c'est la paix, n'est-ce pas? Et donc, quand il arrive qu'il y a trop de dépenses en raison de quelque chose qui arrive, et nous sommes un enfant de Dieu, des enfants de Dieu, nous disons, cela vient de la main de mon Père qui m'aime. Ça change, n'est-ce pas? Quand on a des résultats à l'école qui ne sont pas ce que nous voulions avoir, nous disons donc, ça vient de la main de mon Père. J'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Quand on a des problèmes dans nos relations, parce que soit une personne ici a péché, l'autre personne a péché, normalement c'est les deux qui pêchent. Nous disons donc, le trouble dans mes relations, c'est difficile, c'est en raison du péché, mais c'est mon Père qui m'aime, qui utilise ces problèmes pour mon bien. Je peux avoir la paix en Jésus-Christ. Ça, c'est la paix objective qui influence la vie normale. Mais aussi, je pense que nous avons la paix subjective à travers la vérité de l'amour divin et la souveraineté divine. D'accord? Regardez à nouveau avec moi Jean 14, parce que c'est très intéressant ce que nous voyons ici. Jésus parle beaucoup de la paix, la joie, l'amour, la foi. Mais quel est le contexte historique? Qu'est-ce qui va arriver le jour après, le lendemain? Jean, vous connaissez l'évangile selon Jean, n'est-ce pas? C'est la crucifixion, n'est-ce pas? C'est la mort du maître, des disciples. C'est la fin de tout ce qu'ils pensaient, selon le raisonnement humain. Parce qu'ils ont dit, on a trouvé le Messie, il va nous délivrer. Et même les disciples ne comprenaient pas qu'il n'était pas pour les délivrer de Rome, mais du péché. Et il dit, je vais partir. C'est l'anxiété. Chapitre 14, le verset, on peut commencer par le verset 15. Il commence à parler de l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vérité. Le Père donne le Saint-Esprit et il appelle consolateur. Est-ce qu'on a besoin d'être consolé dans la vie? Oui. Merci Père, il y a un consolateur. Et le verset 17, cet esprit, il va agir, il va faire quelque chose. Il va demeurer avec vous et il sera en vous. Vous ne serez pas seul, le verset 18. Il continue. Le verset 20, ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, il parle beaucoup de l'amour ici. Vous devez m'aimer. Mais moi, je vous aime et le Père vous aime. On a cette relation de l'amour, mais dans un contexte très, très difficile. Jésus va être crucifié. Il continue à parler de cet amour et l'obéissance. Et ensuite, le verset 23, Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » C'est très intéressant ça. C'est Jésus et le Père qui feront leur demeure en nous. Le Père est proche dans le Saint-Esprit. Il n'est pas loin, il n'est pas froid, il est proche, il demeure en nous. Celui qui m'aime, le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. D'accord? Pour moi, ça c'est la promesse que les disciples ont bien eu la reconnaissance, les souvenirs, la capacité d'écrire l'enseignement de Jésus-Christ et de nous partager la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Maintenant, on arrive. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne se larme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Dans ce passage, on peut résumer. Jésus dit, ce qui va arriver, c'est pas au hasard. Ce qui va arriver ne se trouve pas son origine dans l'homme. En fait, ma crucifixion, c'est la volonté du Père et moi, je la choisis par amour. Par amour pour mon Père, et par amour pour vous, mes disciples. On doit croire à la souveraineté de Dieu. Ce qui arrive, arrive selon la volonté de Dieu. Même les choses qui sont horribles, pleines de péchés, comme la crucifixion de Jésus-Christ. C'était la volonté de Dieu. Et Jésus l'a choisi. Et nous devons accepter la souveraineté de Dieu. Mais la souveraineté de Dieu n'est pas froide. La souveraineté de Dieu est pleine d'amour. Parce qu'on a parlé beaucoup d'amour. Jésus a choisi en raison de son amour pour le Père. Le Père a envoyé son Fils unique. Et pourquoi ? Parce qu'il aimait le monde. Et ces deux choses nous aident dans la vie subjective, dans la paix subjective. C'est là que nous sommes aimés par notre Dieu. Ça, c'est comment Dieu nous garde pendant cette vie. C'est à travers sa paix, d'accord? On doit choisir l'anxiété, non? La prière, oui. Et quand nous prions, Dieu nous envoie sa paix. Et sa paix nous garde. Et c'est une paix qu'on ne peut pas comprendre. Mais elle est là pour nous garder. Mais elle nous garde en Jésus-Christ. Nous devons rester fidèles à lui. Nous devons penser à Jésus-Christ. Nous devons lire ses paroles. Parce que la paix de Dieu vient dans la sphère de Jésus-Christ. Et le deuxième point, on est gardé à jamais. Cette vie est dangereuse. Et parfois, notre anxiété est liée à ce qui peut arriver. Et souvent, on parle des personnes avec les phobias. Est-ce que c'est ça?
Phobies.
D'accord? Et on dit qu'ils sont un peu bizarres. Mais en fait, c'est eux qui peut-être pensent plus réellement sur ce qui peut arriver que la plupart des personnes. Une personne qui a trop de peur d'entrer dans une voiture parce qu'elle dit « quelque chose peut arriver ». Bon, elle a raison. On passe à 50 km d'heure comme ça, quelques centimètres entre les voitures. Les choses arrivent très souvent. Quelqu'un qui ne veut pas toucher les choses au public, cette personne a raison. Parce qu'ils font les tests maintenant. J'ai lu les résultats d'un test chez McDo. Les écrans qu'on touche. On ne veut pas savoir ce qui est sur les écrans à McDo. Beaucoup de choses qu'on ne veut pas toucher. Les personnes qui réfléchissent, ils ont une phobie, Beaucoup de choses effrayantes dans le monde. Mais une chose qu'on sait bien, si nous sommes en Jésus-Christ, nous serons gardés à jamais. Juste ce passage, puisque, là, il a raison, le grec, c'est une condition, mais c'est comme je dis à Matthieu, si tu es mon fils, tu ne fais pas ça. Bon, il n'y a pas question qu'il est mon fils. Ce que je dis, c'est mon fils, il n'agit pas comme ça. Puisque tu es mon fils, tu fais pas ça. D'accord? Si donc vous êtes, puisque vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car et il est, maintenant, c'est le lien logique d'explication. Pourquoi? Car vous êtes mort. Et votre vie maintenant, vous êtes mort à toutes ces choses terrestres. Maintenant, vous vivez et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est quand notre vie est dans cette main-là, cachée en Christ. C'est avec Christ et maintenant en Dieu. Vous voyez, c'est très 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 sécur. Jésus-Christ va nous garder. Si vous êtes en Jésus-Christ, il va faire ce qu'il faut faire pour que vous continuiez à croire et à vivre pour lui. Il va agir dans vos cœurs. Il va faire son œuvre jusqu'à la fin. Et ça, c'est de la bonne nouvelle pour nous. Parce que nos cœurs s'éloignent, n'est-ce pas? Parfois, ils cherchent là-bas. Parfois, ils se trouvent ailleurs. Nous sommes trop souvent froids envers Dieu. Mais Jésus est fidèle. On est caché avec Christ en Dieu. Et il va compléter ce qu'il a commencé. Ça, c'est la promesse de Dieu. Donc, si nous sommes en Christ, nous sommes gardés pendant cette vie et à jamais. La question, c'est clair, c'est est-ce que nous sommes en Christ? Et comment être en Christ? Ça, c'est la question que chacun de nous doit se poser. Et c'est très facile. Ceux qui sont en Christ sont ceux qui mettent ceux qui mettent leur confiance en lui, qui disent, moi, j'abandonne moi-même et ma rébellion contre Dieu, je dis non à ce que je veux et je dis oui à Jésus-Christ. J'accepte qu'il est le Fils de Dieu venu pour sauver, le seul et unique moyen pour mon salut. Et selon Paul, dans la même lettre, il dit, on est transféré du royaume des ténèbres dans le